savoir. Ce matin, le Collège de France. Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques, a intitulé son cours « Le fédéralisme antique en question, renouveau et transformation des confédérations hellénistiques sous la domination de Rome ». Car, pendant leur conquête de la Grèce, les Romains vont découvrir des cités fédérées. Dans le cours que nous avons entendu hier matin, Denis Knopfler n'a pas caché les enjeux politiques qui lient cette question ancienne à notre présent. Le fédéralisme, en effet, traverse de part en part l'actuelle construction européenne et notre compréhension du fonctionnement de pays comme la Suisse ou l'Allemagne, par exemple. C'est pourquoi, afin de reprendre à la base le fonctionnement du fédéralisme antique, en l'irriguant par le savoir le plus récent, Denis Knopfler est parti du texte de Montesquieu, L'Esprit des lois. Si Montesquieu a pu penser que la confédération grecque la plus exemplaire était la Lycienne, la Lycie est actuellement une des plus belles régions de Turquie au bord de la Méditerranée, c'est à cause de l'exercice de la proportionnalité et de la méconnaissance en son temps de l'histoire de l'État lycien. Mais cette exemplarité que Montesquieu, en parfait pédagogue, monte en épingle dans son livre, eut une grande influence sur la pensée politique moderne, puisqu'elle fut discutée pour servir de modèle au moment de la création des États-Unis d'Amérique et de la rédaction de sa Constitution. Comment définir les traits essentiels qui font qu'on a affaire ou non à une fédération ? Les avis des spécialistes, nous expliquait Denis Knopfler, sont partagés. Certains pensent aujourd'hui que c'est le bicamérisme, présent par exemple en Amérique, qui fait la fédération. Je vous rappelle au passage que dans ce système, une chambre représente la population, l'autre les États. Si aujourd'hui les confédérations adoptent presque toujours un système de représentation bicamérale, était-ce le cas dans l'Antiquité ? Était-ce ou non une condition nécessaire à l'État fédéré ? Les États de l'Antiquité grecque étaient-ils ou non de simples États unitaires ? Telles sont les questions que Denis Knopfler reprend ici en prélevant et en analysant des exemples précis. Ainsi, ce matin, celui fort mal connu de la Confédération eubéenne. Écoutez.
À la fin du XIXe siècle, quand les autorités de la ville de Chalcis décidèrent de moderniser l'aspect de leur ville en faisant détruire les anciens remparts médiévaux, ainsi le très pittoresque pont fortifié sur le Rip, apparurent parmi les remplois antiques deux inscriptions qui mentionnaient le koinon euboeon au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est vers 1900 également que surgirent des ruines d'Érétrie, un document épigraphique important qui témoignait non pas peut-être de l'existence d'une confédération, du moins des efforts déployés par les cités de l'île pour organiser des fêtes en commun. Et cela déjà à la haute époque hellénistique. D'autre part, les numismates s'étaient aperçus depuis un certain temps déjà qu'il y avait dans leurs médaillés des monnaies eubéennes de bronze et d'argent, portant l'ethnique eubé, pour euboéon, bien entendu, avec différents types, la vache eubéenne, euboïa, et une nymphe éponyme. On ne pouvait donc plus raisonnablement douter que par intermittence au moins, le fédéralisme avait connu une certaine faveur auprès des Eubéens. Et de fait, en 1915, l'éditeur du corpus des inscriptions de Lebé, Erich Zibart, essayait tant bien que mal d'intégrer ces nouvelles données dans le peu que l'on savait de l'histoire de l'île, en distinguant quatre périodes fédérales entre 411 et 146 avant Jésus-Christ. Mais ce sont surtout deux numismates qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, ont contribué à mettre en lumière cet état fédéral eubéen si longtemps méconnu. Le premier, le Canadien William Wallace, publié en 1956 sous les auspices de la Société américaine de numismatique, une petite étude intitulée The Human Coinage, Human League, pardon, and its coinage, où il tentait un premier classement des émissions fédérales EBN. Il aboutissait lui aussi à la conclusion que cette confédération avait dû voir le jour dès après la fin de la domination athénienne sur l'EB en 411, quand les EBéens purent se rapprocher de l'État fédéral par excellence que constituaient alors déjà les cités de la toute voisine Béotie. Wallace a été assez naturellement enclin à penser que cette affaire avait été menée surtout par la cité d'Érétrie. Il constatait d'ailleurs que c'était aussi la ville la mieux connue archéologiquement et épigraphiquement, avec un territoire considérable, à l'étude duquel il avait d'ailleurs consacré 10 ans plus tôt une importante mémoire. Cette supériorité d'Érétrie sur le plan documentaire reste vraie, on peut le dire, c'est même confirmé un demi-siècle plus tard. Il n'empêche que Wallace a commis une erreur de perspective en lui attribuant à Érétrie une position dominante, constamment dominante, sur les autres cités, et en formulant l'hypothèse qu'elle avait dû être le siège de l'atelier monétaire fédéral, ce qui devait expliquer du même coup que le monnayage proprement érétrien ait été, lui, fort intermittent. Les Érétriens auraient, en quelque sorte, profité de ce qu'ils avaient la haute main sur l'atelier monétaire pour émettre des monnaies à l'ethnique fédérale euboéone. Et cela même lorsque le koinon n'existait plus ou était en veilleuse. Si Wallace a eu le mérite incontestable d'attirer l'attention sur l'État fédéral eubéen, son interprétation historique a été largement battue en brèche. En premier lieu, sur le plan épigraphique, par un article de Louis Robert en 1969, en relation avec la question des Romaya, un concours célébré à Calcis par le koinon ton euboéon, on y reviendra. Il faut citer également les quelques pages dévolues à cette confédération dans l'ouvrage classique de Larsen, Greek Federal States, de 1968, encore que sa présentation me semble passer à côté de la plupart des problèmes, en omettant notamment de faire la distinction qui s'impose entre les premiers balbutiements d'Union fédérale au milieu du IVe siècle, donc à l'époque des Chines et de Démosthène, et la création d'un véritable koinon à l'époque de la conquête romaine. Un peu plus tard, dans une thèse publiée en 1979, sous le titre « Calcis et la Confédération eubéenne », c'est notre collègue de la Sorbonne, Olivier Picard, qui a repris toute la question sur de nouveaux frais. Picard a démontré d'abord que le monnayage fédéral eubéen ne commençait guère avant les années, disons, 370-360, et qu'il témoignait, de la part des autorités eubéennes, du désir de s'aligner sur la puissance hégémonique du moment, à savoir Thèbes et la Ligue thébaine, qui, à Leuctre, en 371, avait triomphé de Sparte et menaçait désormais Athènes elle-même. Ainsi s'explique au mieux, en effet, que les premières émissions, que vous avez vues tout à l'heure, aient été frappées en argent de poids et génétique, non pas selon les talons dits attico-euboïques qui avaient été adoptés autrefois par les cités eubéennes. D'autre part, Picard fait valoir de bons arguments pour montrer que la ville principale de l'Eubée, le Caput Euboeae, comme dira plus tard Tite-Live, était dès alors Calcis, même si évidemment on ne saurait parler à cette époque de capitale, ce serait un anachronisme. Ce rôle moteur joué par la ville située sur le Rip, au point le plus resserré de l'île, et avec le continent, ressort en particulier du témoignage des orateurs attiques, cela malgré leurs divergences Ils sont d'accord sur un point, c'est que tout part d'hommes politiques chalcidiens qui furent alors les agents les plus actifs de la constitution, plutôt de la reconstitution du Koinon après une période de dissension, de même de guerre intestine en Eubée dans les années 350. C'est donc bien à Chalcis, non pas à Érétrie, qu'il faut placer de toute évidence l'atelier monétaire du Koinon eubéen. Ce qui n'est pas sans conséquence pour la chronologie des monnaies elles-mêmes. Il en découle effectivement un principe de classement que Picard a exploité, on peut dire, avec toute la rigueur possible, et qui est en gros le suivant. Les émissions au nom et au type de Chalcis, des chalcidéones, qui s'échelonnent sur plusieurs siècles, ne sauraient être contemporaines de celles qui ont été faites au nom des Euboeis, car on ne peut pas admettre que dans le même atelier, celui de Chalcis, il y a eu concurremment une frappe de monnaie municipale et de monnaie fédérale. En bonne méthode, les deux séries doivent être considérées comme exclusives l'une de l'autre, sauf preuve contraire. Cela a donc permis à notre collègue et ami Picard d'établir un tableau tout à fait suggestif qui montre, on n'a pas entré dans le détail, qui montre qu'il y a toujours alternance entre les émissions fédérales et les émissions municipales de Chalcis. Certes, tout n'est pas encore fixé de manière absolument certaine dans cette succession des diverses phases, et Olivier Picard lui-même est revenu à diverses reprises sur cette chronologie qui peut s'améliorer notamment grâce aux trouvailles des fouilles suisses d'Érétrie. Une numismate d'ailleurs suisse, Madame Brunner, a contribué elle-même à ce travail de mise au point qui repose, on peut le dire, désormais sur des bases solides, même si il est susceptible encore de bien des progrès. Il ne s'agit pas ici de discuter de cette chronologie, quel que soit son enjeu historique. Ce qui nous importe davantage, c'est dans un premier temps de nous demander quelle sorte d'état se cache derrière ce monnayage commun. S'agit-il d'une simple velléité communautaire, d'un appel à l'unité sous la conduite de la cité principale, ou au contraire d'un État fédéral influent, comparable aux grandes confédérations de la Grèce continentale? Et, dans un second temps, se posera la question, à vrai dire essentielle, de savoir si ce koinon, à l'existence étrangement intermittente, a évolué au cours de son histoire, est-ce ou non, selon les mêmes principes, qu'il a été reconstitué lorsqu'il, on le voit, refaire surface à l'époque de la conquête romaine. L'unification politique des Eubéens pourrait certes de prime abord apparaître comme la chose la plus banale du monde, puisque l'on a affaire à une île et qu'il y a une tendance naturelle, bien sûr, à voir les habitants d'une île se rapprocher pour former tôt ou tard un seul État. Pour prendre des exemples antiques comparables, en laissant de côté, naturellement, les îles comme Chios ou Samos, qui ont assuré leur unité dès l'époque archaïque, on pourrait citer le cas emblématique de l'île de Rhodes, naturellement, la grande île de Rhodes, avec les trois vieilles cités de Lindos, Ialissos, Camiros, s'unirent dès 409 avant Jésus-Christ pour donner naissance à une seule police avec une nouvelle capitale, qui était la ville de Rhodes. L'unification politique de l'île de Lesbos, proche du continent, a été en fait beaucoup plus laborieuse. Et ce n'est que très progressivement, non sans violence, et retours en arrière, que toutes les petites cités de l'île entrèrent finalement dans un koinon ton lesbion dominé par la grande cité de Mytilène. Assez long et difficile a également été le mouvement fédératif dans la toute petite, on peut dire presque minuscule, île de Chéos, fort proche de l'Eubée. On voit par là que l'unification politique n'est pas allée de soi, en Grèce ancienne, même lorsque tous les facteurs propices à ce mouvement étaient réunis, à savoir l'unité géographique, l'unité linguistique, ou disons mieux l'unité dialectale, l'unité religieuse, enfin, qui n'est pas la moins importante. Par quoi il faut entendre, bien sûr, non pas le partage d'une même foi, puisque le sentiment religieux est en gros partout le même dans la Grèce ancienne, mais la participation à des cultes communs avec leurs fêtes dans un ou plusieurs sanctuaires. Ainsi, pour prendre encore une fois l'exemple proche, le parallèle de Lesbos, un sanctuaire situé au centre de l'île, à Messone, l'endroit du milieu, a été le lieu de rencontre, on peut le dire, des habitants des diverses cités dès l'époque archaïque. Il y a là-dessus un très bel article en 1960 encore de Louis Robert. Si l'on se tourne maintenant vers le B, que constate-t-on? D'abord, certes, qu'il y a unité géographique du fait découlant du caractère insulaire, tout simplement, de ce pays. Mais c'est une drôle d'île que le B, hein, à la fois parce qu'elle est collée au continent, donc encline au contact avec l'extérieur, et comme offerte aussi aux ambitions étrangères, et parce qu'elle s'étire en longueur, du fait on l'appelait Macris, hein, la longue, dans l'Antiquité, sur une distance de près de 200 km. Cette forme allongée, étroite, parfois très étroite, qui a frappé les géographes anciens, était d'autant moins favorable à l'unification politique que l'île se subdivise en fait assez naturellement en trois régions naturelles, fortement contrastées les unes avec les autres. Au sud, la région de Caristos, bon, ce qui est, on peut dire, cycladique, c'est une cyclade, d'ailleurs c'est une île, c'est comme une île dans l'île, certains voyageurs l'ont souligné, l'orientation vers les Cyclades. Au nord, autour de d'Istier, c'est tout autre chose, c'est une région vallonnée, bien arrosée, avec une végétation continentale, de belles forêts. Et dans l'Antiquité, toute cette région regarde vers la Malide, ici vers le golfe Maliaque, vers la Thessalie, beaucoup plus que vers le cœur de l'Eubée, à laquelle la reliait certes une route plus ou moins praticable, tout de même avec un col assez redoutable aussi, ici, avant de pénétrer dans la grande plaine centrale que se partageaient les deux cités toutes voisines de Chalcis et d'Érétrie, qui, en dépit de leur rivalité, formaient un tout sur le plan culturel. Cette division tripartite de l'Eubée est une donnée fondamentale. On la retrouve au Moyen-Âge, les trois baronnies et le découpage moderne du nome, du département, de la province, de l'Eubée en trois éparchies, districts, et encore un prolongement actuel. Dès lors, pour en revenir au problème de l'union politique des Eubéens, on peut dire qu'elle n'allait nullement de soi. En tout cas, même sur le plan ethnique. Certes, les Eubéens se rattachaient tous, dès l'époque classique au moins, au rameau des Ioniens. Et c'est d'ailleurs en tant que Ioniens qu'ils participaient, aux côtés des Athéniens, à l'amphictyonie delphique, association de peuples, on n'en parle pas ici, même si elle s'appelle dans l'Antiquité Koinon, ça n'est pas du tout un État fédéral. Mais les habitants de l'île n'avaient certainement pas tous la même origine, ni ne parlaient exactement le même dialecte. On gardait d'ailleurs le souvenir, Thucydide en témoigne très clairement, que la région de Caristos était occupée par une vieille population, les Griopes, dont on a quelques autres éléments ailleurs dans les Cyclades ou dans le Péloponnèse. Dans le nord de l'Eubée, c'était un peuple qui avait une parenté très nette avec certains rameaux thessaliens, les Hélopiens. Ce morcellement ethnico-linguistique de l'Eubée se traduit notamment dans le calendrier, qui était de type ionien, à Chalcis, à Érétrie et aussi à Caristos, avec des variantes, tandis que le calendrier d'Istier, d'Istier-Oréos, au nord, était, comme je crois l'avoir montré dès 1988, d'un type tout à fait différent, issu d'un modèle bien attesté aujourd'hui dans la Thessalie méridionale et dans quelques villes de Macédoine. Ces différences, voire ces barrières à la fois géographique et culturel, n'ont cependant pas empêché que naisse en Eubée le sentiment d'appartenance à une même communauté régionale, autour d'un culte, notamment comme celui d'Artémis à Marinthos. Et cette prise de conscience a sans doute été favorisée par le fait que, de l'extérieur, vu de l'extérieur, les Eubéens apparaissaient plus homogènes qu'ils n'étaient en réalité, hein, formant un seul ethnos, seul peuple, comme les Béotiens ou comme les Athéniens eux-mêmes. De cela témoigne déjà le catalogue des vaisseaux, le catalogue homérique, puisque on ne connaît là qu'un seul peuple, les Abantes, une unité de fait. Hérodote et Thucydide parlent très souvent des Eubéens, utilisent le collectif Euboïeus, même s'ils ont parfaitement conscience, eux, que cette ethnique ne désigne pas les ressortissants d'un État unitaire, mais seulement les habitants d'une même île. À Athènes, l'usage de cette ethnique était d'autant plus fréquent que les Athéniens eurent longtemps l'ambition d'exercer leur domination sur l'île tout entière, si importante pour leur économie et leur subsistance. Les Euboïeus, peuple conquis ou peuple à conquérir, forment assez naturellement un tout à leurs yeux. On voit même dans Lion d'Euripide, la reine Créuse parlait de l'Eubée comme d'une cité, polis, d'une cité voisine. Euboi, Athénais, esti tis gaiton polis. C'est évidemment une fiction poétique, mais révélatrice d'une certaine façon de percevoir l'Eubée comme un tout. C'est dire qu'on doit se montrer très prudent dans l'utilisation des témoignages littéraires, même de nature historiographique, quand il s'agit de faire l'histoire du koinon euboéon, de l'union politique des Eubéens, dont l'existence ne saurait être inférée de la simple mention de l'ethnique chez un historien comme Diodore de Sicile pour l'histoire du IVe siècle, car l'accord des Eubéens, ou même une entreprise commune de leur part, ne prouve pas encore que cette action résultait d'une décision prise dans le cadre d'un organisme commun à l'ensemble des cités de l'île. Et cela même pour les courtes périodes où ce koinon paraît être attesté, encore une fois, par la numismatique. De fait, les auteurs contemporains au IVe siècle sont, en règle générale, plus précis, en tout cas moins équivoques. C'est ainsi que chez Xénophon, Hellénique 6-5, on apprend qu'après l'autre, les Eubéens de toutes les cités, les Eubéens de toutes les cités, Euboiais, Apo, Passon, Ton, Poléon, s'associèrent à l'expédition des Thébains dans le Péloponnèse. Une telle expression montre bien qu'en l'occurrence, ce sont les cités eubéennes qui ont pris la même décision, en fonction des mêmes contraintes politiques, de se ranger du côté des Béotiens. Tous les textes, y compris les documents épigraphiques eux-mêmes, doivent donc être examinés avec circonspection. Prenons à titre d'exemple une inscription athénienne qui a été souvent mal comprise à cet égard, d'ailleurs incorrectement datée, le décret IG22-149, qui, vers 360 au plus tard, on aurait trois hommes politiques eubéens, dont l'ethnique a disparu. On a pu restituer cette ethnique avec une quasi-certitude, grâce à l'identification de l'un d'eux, Héracléodoros, un citoyen de la ville d'Istié-Oréos, au nord, Istiaios, connu par Aristote dans sa Politique, livre 5, comme un chef du parti démocratique, et donc pro-athénien en principe, dans la cité d'Istié. Mais le décret fait état, dans la formule dite hortative, de l'amitié et de l'alliance liant le peuple d'Athènes et les Eubéens. Et filia kai esumakia toi demoi toi athénaion kai tois euboïsin. Que le nouveau décret, que ce document, doit contribuer à maintenir et à renforcer. On en a conclu, bien imprudemment, que ce document devait dater d'une période où les Euboéis formaient une confédération, puisqu'il existait alors un traité d'alliance, apparemment, entre Athènes et les Eubéens. C'est une opinion à peu près générale. Et certains historiens ont voulu alors placer le document vers la fin des années 340, à l'époque justement du fameux débat entre Échine et Démosthène, quand il y a à tout le moins une tentative d'union, d'installation d'un euboïkon synédrion. Mais cette datation est impossible pour des raisons épigraphiques sur lesquelles je passe ici. De fait, on a préféré le plus souvent la mettre en rapport avec les événements de 357, lorsque le Bey, après avoir été en proie à la guerre civile, fut l'objet d'intenses négociations diplomatiques de la part d'Athènes. Je crois toutefois bien préférable, sur la base d'arguments épigraphiques, formulaires et donc techniques, que j'ai fait valoir dans un mémoire de 1995, de la dater encore sensiblement plus haut, vers 375 déjà, au lendemain de la libération d'Istier de la tutelle lacédémonienne, de son adhésion à la Ligue maritime, cette Ligue que les autres cités de l'Eubée avaient rejointe en ordre dispersé, il n'y a pas deux Boeis, en ordre dispersé, les Érythréis, les Chalcidais, les Carustioi, dès 378-377. Au témoignage de cette très fameuse inscription, la charte de fondation de la Ligue. On comprend ainsi, au mieux, vers 375, que les Athéniens, dans notre décret, aient fait allusion à l'amitié avec les Eubéens ingénérés, puisque l'entrée des Istiens dans la Ligue, grâce à l'action du démocrate Héracléodoros, venait couronner leur politique de rapprochement avec tous les États eubéens. Euboeis n'est pas, donc, à prendre dans son sens politique. Une chose est claire, en tout cas, et doit donner à réfléchir. À aucun moment du IVe siècle, Athènes ne s'allie avec les Eubéens réunis en un État souverain. Et cela, même quand elle conclut des traités avec les quatre cités de la Tétrapolis, comme ce fut le cas en 356, dans une inscription qui concerne au premier chef Charistos, mais on voit qu'il y a des négociations diplomatiques avec Érythrée, avec Chalcis, avec Istier. Il n'est à aucun moment dans ce texte question des Euboeis en tant qu'État, alors qu'Athènes, à la même époque, s'allie avec les Thessaloi, avec les Acarnanès, avec les Arcades, donc, en Eubée, la situation est visiblement différente. Le plus frappant, c'est que même en 341-340, époque pour laquelle valent les déclarations tonitruantes d'Échine sur les manœuvres de Démosthène pour se concilier à tout prix les Eubéens, de façon légitime d'ailleurs, face au péril macédonien, eh bien, on constate que dans l'épigraphie attique, il n'est jamais fait mention de l'Euboïcon Synédrion, que les traités des années 340 sont avec, notamment avec Érythrée et avec Istier Oréos. D'autre part et surtout, si l'on considère l'histoire de la haute époque hellénistique, il est bien malaisé de découvrir le moindre indice en dehors, encore une fois, des monnaies fédérales frappées de manière intermittente, de l'existence d'un koinon eubéen tant soit peu actif et consistant. Ce n'est pas, certes, que les cités eubéennes s'ignorent, mais elles agissent très rarement de concert. Il est frappant de constater que, lors de la guerre lamiaque, par exemple, au lendemain de la mort d'Alexandre, contre le pouvoir macédonien, seul Charistos s'allie avec Athènes. Les autres cités restent sous le pouvoir des Macédoniens. Et plus tard, en 312, c'est Istier qui... reste à part avec Cassandre contre un lieutenant d'Antigone le Borgne. Les trois autres cités sont alliées. Forment-elles alors un koinon? Ça n'est pas certes impossible, mais en tout cas rien ne l'assure dans notre documentation. Plus tard encore, en 286, en tout cas selon moi, Érythrée est la seule cité de l'Eubée à rejoindre la confédération béotienne. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de confédération eubéenne à ce moment-là. Et c'est seulement plus tard que Chalcis va y entrer à son tour. Tout cela montre assez éloquemment combien était large, pour ne pas dire souvent inexistant, cette union politique des eubéens. Pourtant, les historiens modernes s'accordent à penser que pendant une courte période, aux alentours de 300, une véritable confédération eubéenne a bel et bien existé sous le haut patronage du fils des Diadoques, Antigone le Borgne, à savoir le roi Démétrios Polyurcète. C'est lui, en effet, qui, dès 304, une fois victorieux de son ennemi Cassandre, aurait reconstitué le koinon euboéon. auquel Picard attribue de fait des monnaies à la fois d'argent et de bronze, avec toujours l'ethnie Eub, qu'on peut dater aux alentours de 300 effectivement. Monnayage qui aurait commencé dès 304. Mais force est de constater que les décrets d'Érétrie, sûrement datés ou datables des années 304-301, ne font nulle mention d'un koinon eubéen qui serait placé au-dessus des instances municipales, alors même que certaines de ces inscriptions évoquent les campagnes de Démétrios, l'obligation pour les Érétriens d'envoyer des contingents dans la flotte, par exemple. On se dit que si un koinon avait existé entre 304 et 301, il est assez clair que l'envoi d'un contingent militaire placé sous le haut commandement du roi aurait dû être l'affaire bien plus tôt des Eubéens ensemble et non pas une entreprise laissée aux soins de chacune des cités. En outre, de la part de Démétrios en 304, qui était venu, il ne faut pas l'oublier, comme un libérateur, un tel interventionnisme dans les affaires intérieures ne se conçoit guère d'entrée de jeu. Plus tard, en revanche, on comprend très bien qu'après Ipsos, la défaite des Antigonides, quand Démétrios doit progressivement ou peu remettre la main sur ses anciennes possessions, et notamment sur le B, il y a un siège de Chalcis qui est mentionné en 298, là, à partir de cette date, une domination lourde s'installe sur le B et il est parfaitement concevable qu'ait été constituée une confédération eubéenne pendant une dizaine d'années, jusqu'au moment où le roi partira pour l'Asie. De fait, il existe, il faut bien le marquer, il existe un important document d'Érétrie, mais qui est un règlement des eubéens, difficile, que cette loi eubéenne, car cette loi porte sur l'organisation d'une fête, de deux fêtes, et l'engagement d'artistes de théâtre, de technitai, de technite. Sa date est assurée, au moins de manière approximative, par le fait que, à la ligne 22, on emploie l'expression nomisma Démétrieion, la monnaie de Démétrios, que les autorités eubéennes utilisent pour assurer le salaire, le mistos des artistes de théâtre, car c'est une monnaie de poids lourd qui a une valeur internationale. Donc, une forme de koinon euboikon patronné par le roi a dû exister pendant, encore une fois, une dizaine d'années à cette époque. Mais ce document est en même temps bien révélateur de la nature du lien unissant alors les quatre villes de la tétrapole eubéenne. À l'évidence, on est loin d'avoir affaire à un État fédéral. D'abord, parce qu'il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas de magistrat qui agisse au niveau fédéral, de koinoi archontes. C'est une commission ad hoc, c'est à cette commission formée de représentants de chacune des quatre cités que l'on confie la tâche de négocier le contrat d'engagement avec les technitai. Ce sont les deux principaux collèges des magistrats de Chalcis, les probouloi et les strategoi, à la ligne 58, qui sont appelés à faire connaître la tenue de ce marché, marché de l'embauche, on peut bien dire, et de présider aux opérations, puisque tout cela doit avoir lieu au centre de l'île, à Chalcis. Chose plus remarquable encore, il n'y a pas de calendrier commun, ce qui fait une très forte différence avec la situation qu'offrent les grands koinats, confédération du continent, à la même époque. Chaque fois que le rédacteur indique une date, il doit fournir des équivalences ou préciser que la date est donnée selon le calendrier des Chalcidiens, os agusin Chalcideis, ce qui complique passablement les choses. En cette matière, d'ailleurs, les Eubéens ne parviennent à s'entendre que sur un point, une précaution minimale pour la marche du calendrier, c'est le moment où on va intercaler des mois, un mois supplémentaire, pour faire coïncider l'année lunaire et l'année solaire. Il est clair que quand on organise en commun des fêtes, il vaut mieux avoir un calendrier qui marche à peu près de la même manière. Ce qui, en revanche, elle est vraiment commune à l'ensemble des Eubéens, c'est l'organisation des deux fêtes. La mise en adjudication des engagements, célébration coordonnée des Dionysia et des Démétria. Toute cette entreprise, qui est d'ailleurs qualifiée de euboikon ergon, hein, comme euboikon synédrion, c'est bien une affaire eubéenne. Les privilèges accordés aux technitai sont valables dans toutes les cités de l'Eubée. Entais polesitais en euboiai pasai, ligne 62-63. La sécurité, notamment pour leur déplacement. D'autre part et surtout, il y a une législation eubéenne qui implique au minimum l'existence d'un conseil commun ou d'une assemblée commune. Il faut prendre garde néanmoins que toutes les lois mentionnées dans ce texte ne sont pas nécessairement des lois émanant d'un organe fédéral. En effet, quand le texte dit que les technites veilleront à ne rien faire qui soit contraire aux lois établies en ces domaines par les Eubéens, paratus keimenus tois euboisin peritouton nomus, cela doit, je pense, désigner des lois existantes dans chacune des cités eubéennes. De même, dans un autre passage bien intéressant, où il est question de l'envoi par les cités d'ambassadeurs sacrés, de théoroi, qui sont invités à participer aux divers moments de la fête, sacrifices, processions, etc. Kata ton euboikon nomon. Cette expression ne fait certainement pas référence, quoi qu'on en dise, à une loi votée par les Eubéens, mais à l'usage des Eubéens. Hein, cet usage qu'il faut respecter dans les affaires religieuses. Il n'en est pas moins certain, encore une fois, que la communauté eubéenne pouvait prendre des décisions ayant force de loi dans toute l'île, puisque l'inscription elle-même, encore une fois, se présente comme un nomos, c'est-à-dire un règlement, disons, un règlement, c'est tout à fait clair, ligne 61, protu ton nomon curotenai, avant que la loi, le règlement ne soit validé. Sans qu'on dise d'ailleurs par quelle instance cette validation aura lieu. Quoi qu'il en soit de ce point, on ne saurait contester qu'au début du troisième siècle, à l'époque de Démétrios, Polyurcète, un embryon de confédération est existé en Eubée. Mais cela n'est au mieux qu'une association d'États souverains, on l'appelle en allemand un Staatenbund, et en tout cas pas un État fédéral, Bundesstaat. L'absence de citoyenneté commune est un signe qui ne trompe pas. Il se manifeste dans le fait que les Eubéens à l'étranger ne sont pas désignés comme Euboeis. Un citoyen de Chalcis, ce n'est pas un Euboeis apo ou ek Chalcidos, hein, comme un Béotien de Platée pourrait être un Boiotos ek Plataeon. Rien ne le montre mieux que cette inscription où l'on voit toute une série d'ethniques fédéraux pour ces mercenaires, Boiotios, Akarnan, Aitolos, etc., et quelques ethniques ou politiques, entre guillemets, municipaux, un homme de colophon en Ionie, parce qu'il n'y a pas d'État fédéral ionien, hein, on le verra, et pas plus que des Crétois. Les Crétois sont tous nommés par un ethnique municipal, comme un Rétumios, un homme de Knossos, ici. Et puis pour le B, de façon intéressante, un Estiaios, ce n'est pas un Euboios, il est de Distier et seulement Distier en Eubée. D'ailleurs, à partir des années 260, quand le roi de Macédoine rétablit et renforce sa domination sur l'île après une courte période d'indépendance, les frappes monétaires fédérales cessent complètement et ne reprendront pas avant la fin de la période macédonienne. Les cités continuent, certes, à exister, ce sont des villes sujettes, qui ont une marge de manœuvre extrêmement faible sur le plan de la politique extérieure. C'est ainsi qu'elles participent plus ou moins librement, on le voit, à la vie agonistique internationale, comme le montrent par exemple les décrets d'acceptation en 208-207 des concours de Magnésie du Méandre, les Leucophriena. Mais elles le font en conformité avec la volonté du roi, en ordre dispersé. Il n'y a pas à cette date de décret émanant des Euboeis, et cela est très révélateur. Quand on compare ce cas à celui des Acarnaniens, par exemple, pour lesquels on possède à Magnésie un décret fédéral qui vient chapeauter, en quelque sorte, des décrets municipaux des villes acarnaniennes. La situation, toutefois, devait changer très peu après, avec les guerres de Macédoine et la conquête romaine. Des témoignages littéraires attestent non seulement que le B fut d'emblée l'un des enjeux majeurs du conflit, et que l'éclatante victoire remportée par le jeune consul, ou déjà proconsul, Titus Quinctus Flamininus, en 197, à Cynocéphale sur le roi Philippe V, eut d'importantes répercussions sur le statut des cités de l'île, qui, d'ailleurs, l'année précédente, déjà, avait été soustraite sans ménagement à l'emprise macédonienne par l'armée romaine, par les flottes de Rhodes et de Pergame. Il est vrai que nous avons donc un certain nombre de textes sur les conséquences de cette victoire, et notamment ceux qui se rapportent à la fameuse proclamation de Corinthe en 196, aux Ismias de Corinthe, où le vainqueur, à la stupeur générale, annonçait la libération de tous les peuples soumis jusque-là au roi de Macédoine. Cette annonce solennelle nous est connue par trois auteurs, Polybe, Tite-Live, et son, qui est l'adaptateur latin en fait, et enfin Plutarque, par lequel je montre en premier, Plutarque, vie de Flamininus, et les trois versions comportent à peu de choses près les mêmes noms, ceux des Corinthiens, des Phocidiens, des Locriens, des Achéens, Phtiotes, des Magnètes, des Pérèbes, tous ces peuples libérés par Rome en 196. Le B ne fait défaut dans aucune de ces listes. Il convient de souligner car, par suite d'une malencontreuse inadvertance, les Ebéens sont passés à la trappe dans la traduction française de Polybe, excellente traduction par ailleurs, très utile, la plus répandue aujourd'hui, celle de Denis Roussel, hein, où l'on voit que le mot euboès figure bel et bien dans le texte grec, il n'est pas dans le texte français, ce qui est un peu gênant. On ne saurait donc douter que les Ebéens aient fait partie des peuples déclarés libres en 196. Il est clair aussi que l'ethnique euboès, utilisée ici par Polybe, utilisée par Plutarque, ne peut pas désigner les ressortissants d'un État fédéral. Ce sont simplement les habitants des quatre cités de l'Eubée. Il me semble d'ailleurs fort significatif que Tite-Live, donc adaptant Polybe, n'ait pas su traduire cette ethnique euboès en latin. De fait, la forme euboenses ne se trouve jamais chez lui, hein, parce qu'à aucun moment il n'a eu à parler d'une nation eubéenne. Il a donc recours ici à une espèce de périphrase. Il utilise le mot insulam euboeam. Et c'est le seul cas. Dans toute la liste, il y a des peuples, mais il y a par ailleurs l'île d'Eubée. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment des Ismias de Corinthe, le sort de l'Eubée était encore loin d'être fixé. Le nouveau roi de Pergame, Eumène, appuyé par une commission de 10 sénateurs fraîchement arrivés de Rome, revendiquait les cités d'Istiaureos et d'Érétrie pour prix des services rendus par son père dans la guerre contre la Macédoine. Il est clair que ce don des villes eubéennes à Eumène eût été catastrophique pour cette île, en compromettant en tout cas pour longtemps toute possibilité de création en Eubée d'une nouvelle confédération. Confédération à laquelle sans doute Flamininus, le consul, songeait dès ce moment-là. En tout cas, il s'y opposa fermement et eut gain de cause. Grâce à son intervention, ces deux cités, en fin de compte, furent déclarées libres, Caristos aussi, par décret du Sénat, par Senatus Consult. Pour Chalcis, compte tenu de sa position stratégique exceptionnelle, la menace était d'une autre nature. Le Sénat voulait y maintenir une garnison, ici à Chalcis, comme à Démétrias, comme à Corinthe, qui étaient les trois entraves de la Grèce, selon le mot fameux de Polybe à propos des Macédoniens. Mais pour ne laisser aux Étoliens aucun sujet de récrimination, contre le pouvoir romain, Flamininus décide de faire enlever la garnison de Chalcis et de laisser le B totalement sans garnison, à Frouretos. Au moment de rentrer à Rome, en 194, il pouvait en fait se prévaloir ainsi, auprès des Eubéens, d'avoir été leur libérateur, leur sauveur. Il convoque à Chalcis, une assemblée des représentants des quatre cités, conventum ibi euboicarum civitatum abuit, écrit Tite-Live. Il leur rappelle dans quel état il les avait trouvés et dans quel état il les laissait. Au livre 34. Admonitos in quastatu rerum accepisset eos et in quo reliquisset remisit. La phrase, évidemment, riche d'enseignements, mais point peut-être parfaitement limpide, pour autant sur le processus politique qui précéda et suivit cette conférence pan-eubéenne. Polybe, dont le témoignage est malheureusement perdu ici, et c'est sans doute plus explicite sur la teneur du message aux Eubéens. Flamininus leur enjoignait-il de constituer une union fédérale? Oui, c'est probable. Le mot utilisé par l'historien latin, conventus, réunion, c'est pas tout à fait l'équivalent de commune, qui est l'État fédéral. Mais il y a eu sans doute donc mise sur pied d'un État, d'une confédération eubéenne dès 194. Il y a quelques indices en faveur de cette hypothèse. On constate en effet que Cadémétrias de Thessalie, où Flamininus se rendit aussitôt après sa visite à Chalcis, la confédération des Magnètes fut rétablie dès cette année-là, elle aussi, ou même peut-être deux ans plus tôt. D'autre part, un indice numismatique intéressant plaide également pour 194, car on a deux émissions de bronze, avec monétaire, peut-être un troisième, des missions qui ont été visiblement interrompues précocement et qui pourraient donc se loger dans cette période de 194 à 192, car en 192, c'est un grand chambardement qui va se produire en Eubée du fait de l'hostilité des Étoliens au protectorat romain et de l'arrivée du roi de Syrie Antiochos III qu'ils ont appelé à la rescousse. Un troisième argument en faveur de l'existence d'une confédération eubéenne dès cette année-là, c'est que les partisans de Rome à Chalcis firent appel, au moment de l'attaque étolienne contre leur ville, aux autres eubéens. Et Tite-Live rapporte en effet, sans doute après Polybe, qu'on célébrait par hasard, au même moment, près d'Érétrie, la fête annuelle d'Amarintos. Donc Amarintos, pardon, tout près, une dizaine de kilomètres d'Érétrie. Et que dans cette fête, il se trouvait que participait un grand concours de peuples, notamment pas seulement des gens d'Érétrie, mais des gens aussi de Charistos. Et si les gens de Chalcis n'y étaient pas cette année-là, c'est précisément à cause de la conjoncture politico-militaire. Donc les Chalcidiens profitent de cette réunion religieuse pan-eubéenne pour venir supplier leurs congénères eubéens, in eadem insula geniti, d'intervenir au plus vite. Et leur argument, c'est le respect de l'alliance avec Rome, la Romana Societas. Ce qui laisse entendre qu'il y avait un traité qui unissait Rome avec l'ensemble des quatre cités, donc un organisme fédéral. Et l'empressement des Érétriens et des Charistiens à répondre à cet appel, la confiance que leur témoignent ensuite les Chalcidiens, qu'ils les font entrer dans leur ville, tout cela est donc parle, on peut dire, dans le même sens. Mais tout cela n'empêcha point d'ailleurs la ville de voir finalement ouvrir ses portes au roi Antiochos, qui installe son quartier général, sa résidence. Bon gré mal gré, les Chalcidiens, sinon les autres Eubéens, ont donc été contraints de rompre l'alliance avec Rome. Et ils faillirent être entraînés par là dans une véritable catastrophe. Après la défaite de ce roi Antiochos, dès 191, et des Étoliens avec lui, par une armée romaine. Car le nouveau consul, Acilius Glabrio, était beaucoup moins philhellène que Flamininus, et très irrité contre les Chalcidiens. Il fallut tout le prestige de Flamininus, qui avait repris du service, qui était revenu comme légat à ce moment-là en Grèce, pour que les Chalcidiens fussent épargné. Et cela lui valut, nous dit plus tard notamment, de très grandes manifestations de reconnaissance de la part des Chalcidiens. Des consécrations comme à un dieu. On a d'ailleurs une petite écho dans une inscription assez modeste, dédicace de gymnasiarque à Titus Sauter et Evergète. On peut donc considérer comme très probable que le koinon eubéen ne fut pas long à être rétabli, puisque aux yeux de Flamininus et des Romains, cette confédération, en tant que telle, n'avait somme toute pas démérité face à l'ennemi, à la différence des magnètes qui, eux, s'étaient jetés dans la bataille aux côtés d'Antiochos et des Étoliens. De fait, en eux-mêmes, une assez longue série de bronzes des missions fédérales paraît ne pouvoir dater que du début du IIe siècle, donc en gros des années 190-175. En fin de compte, on a les meilleures raisons de penser qu'il y a eu, dans ces années-là, après l'équipée d'Antiochos III, une nouvelle phase de koinon eubéen. Et c'est justement à cette époque qu'appartient, selon moi, deux documents qui, en dépit de leur apparente banalité, sont extrêmement révélateurs de ce que fut alors, et seulement alors, je crois, ni avant ni après, le koinon eubéen. Publié dès 1892, la mieux conservée de ces inscriptions, un décret honorifique, avait été d'emblée daté des alentours de 190 par ses éditeurs, le français Joubin, l'autrichien Wilhelm. Puis on se contenta de placer le décret, disons, en gros, dans le IIe siècle. Et dans sa thèse, Olivier Picard est revenu à une datation plus précise, mais je crois devoir le dire, tout à fait paradoxale, dans la mesure où ce décret fédéral serait, selon lui, certainement postérieur à 169. Comme le montre, dit-il, la mention des synèdres. Alors que son étude numismatique établit que la frappe monétaire fédérale a cessé précisément aux alentours de 170. En fait, il y a une méprise, puisqu'il n'y a pas de synédrion, mais il y a au contraire toujours une boulet. Or, la substitution du synédrion à la boulet, c'est un phénomène qui est postérieur à Pydna, 168, comme je crois l'avoir montré, en tout cas pour le B. Dès lors, notre décret est nécessairement antérieur à cette date, 269, et d'autre part, la mention qui est faite des Romains, ta Romaio, est tout à fait, évidemment, tout à fait intéressante. Si le personnage honoré veut faire une requête auprès des autorités EBN, il ne sera écouté qu'après les affaires sacrées et les affaires des Romains. Meta taiera caita Romaio, expression qui a été bien expliquée d'emblée par les éditeurs. On est donc nécessairement après 194, probablement après 190. On voit qu'on retombe tout à fait dans la fourchette des années, disons, du premier quart du deuxième siècle.
C'était Éloge du savoir. Ce matin, le Collège de France avec aujourd'hui Denis Kneupfler. Vous pouvez trouver tous les renseignements concernant le professeur Kneupfler, horaire des cours ou des séminaires, bibliographie, biographie et travaux divers, en consultant le site internet du Collège de France, dont voici l'adresse. www.college-de-france.fr. Réalisation Isabelle Huel, présentation Christine Gouémé. Demain, dans l'éloge du savoir, suite du cours du professeur Kneupfler, consacré à Renouveau et transformation des confédérations hellénistiques sous la domination de Rome. Bonne journée à l'écoute de France Culture.